Bonjour à toutes et tous, Arlette Farah
et Fulgence Bleu.
À regards croisés, suivez-nous aujourd'hui. Alors Fulgence, aujourd'hui on a des invités, enfin un invité, un chroniqueur on va dire. Tu nous parles de l'invité.
En première demi-heure de l'émission, je ne dis plus l'heure d'émission. Oui. La première demi-heure de l'émission, on aura un invité, Louis-Edgar Jean-François, qui est le président directeur général du groupe 3737, qui va nous parler de ce qu'ils font. Et puis voilà, on va apprendre beaucoup de choses sur ça.
J'espère. Eh bien, voilà. Mais moi, de mon côté, j'ai invité un chroniqueur, Luc Boily, qui va nous faire une chronique sur sa mauvaise humeur. Il va nous expliquer pourquoi il est de mauvaise humeur. Et ensuite, en toute dernière fin d'émission, je vous raconterai une jolie histoire qui s'est passée il y a déjà longtemps, mais c'est toujours beau à raconter. Voilà, à tout de suite. Et là, on démarre avec première chanson.
Oui, on va à musique tout de suite avec Jonathan Butler et Gerald Albright, Going Home.
My brother Gerald Albright! A little song I wrote while living in England, because I was missing home so much. The song is simply called Going Home. Thank you.
Oui, c'est
One more time for Jill Albright.
Jonathan Butler avec son ami Jill Albright. Going home. Ouais. Ça fait du bien. On a déjà au téléphone notre invité, Louis-Edgar Jean-François, PDG, c'est-à-dire président directeur général du groupe 3737. Bonjour, Louis-Edgar.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oui, en pleine forme, et vous?
Ouais, on va bien. On va bien ici en studio. Malheureusement, on ne peut pas vous avoir ici avec nous, mais on vous voit quand même à travers le téléphone.
Attention.
Les nouvelles technologies.
C'est ça. On vous voit à travers le téléphone. Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler un peu de ce groupe 3737 qui d'ailleurs a été créé en 2000, fondé en 2012, dont vous êtes le président directeur général. Et vous êtes l'architecte et stratège derrière cette réalisation et la mise en place de la vision et cofondateur de ce groupe 3737. C'est quoi en gros?
C'est beau, c'est une belle fonction.
Voilà.
Donc, le groupe 3737 qu'on a mis en place, c'est un écosystème entrepreneurial. Donc, notre but, c'est d'avoir, de façon macro, d'avoir un impact économique. Et conséquemment un impact social, dans un premier temps dans le quartier dans lequel on évolue, dans le quartier Saint-Michel, qui, comme vous le savez probablement, est considéré comme un quartier défavorisé de l'île de Montréal.
Oui.
Donc notre objectif, c'est de favoriser l'activité commerciale pour pouvoir créer un changement, si on veut, dans le quartier, et créer un certain essor là dans le quartier. Donc ça, c'est notre mission sociale, si on veut. Donc on le fait par le biais de l'entrepreneuriat, mais précisément de l'entrepreneur issu de la diversité et de l'inclusion et des communautés noires.
Oui.
Donc notre but, c'est d'utiliser ce moteur pour pouvoir créer ce changement et montrer, dans le fond, l'impact que ce moteur peut avoir dans la communauté ici au Québec.
Oui, oui. Et ce qui n'était qu'un rêve en 2011 est aujourd'hui une réalité, car le groupe est aujourd'hui important. Et ce lien d'innovation en affaires et puis en technologie au Québec, il regroupe une communauté de plus de 80 entreprises et plus de 400 entrepreneurs accompagnés et gérants des startups et autres de taille moyenne en concurrence mondiale. Ouais. Et comment vous êtes arrivé là si rapidement?
Dans le fond, peut-être mise à jour, ça c'est des chiffres qui datent de 2019, donc juste avant la COVID, on a pu faire une mise à jour sur les chiffres.
Oui.
Donc on a accompagné 606 entrepreneurs, on a pu créer 334 emplois, donc aider à créer 334 emplois.
Wow.
Mais surtout collectivement, nos entreprises ont généré collectivement 83 millions de chiffres d'affaires, donc si l'idée, c'est de continuer dans cette voie-là, continuer dans ces résultats-là pour vraiment avoir un impact.
Oui. C'est vraiment... Tu voulais demander quelque chose?
Non, c'est parce que j'y pensais après. Je me disais comment c'est venu, parce que je présume que vous avez travaillé ailleurs avant. Donc, comment ça s'est construit, tout ça, cette idée? C'est dû à un besoin que vous avez eu?
Dans le fond, j'ai pas la prétention d'être le fondateur de l'organisme. Donc, dans le fond, les cofondateurs, je devrais dire, de l'organisme, Franck Saint-Élémy et Vicky Joseph. Donc, c'est eux autres qui ont eu cette vision-là, donc qui ont eu l'idée de vouloir mettre en place un hub pour aider à être, si on veut, à contribuer à être un vecteur de changement. Donc, au début, donc en 2012, lorsque Franck et Vicky ont eu l'idée de mettre cet écosystème-là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est au départ... c'est de rassembler des entrepreneurs ensemble pour qu'ils puissent créer des synergies ensemble, faire des affaires ensemble. Moi, personnellement, je suis comptable professionnel agréé de formation, puis à l'époque, j'avais ma boîte en comptabilité service juridique, donc mais également, je servais Franz et Vicky et leurs entreprises, donc ils m'ont demandé en tant que comptable, est-ce que ça m'intéressait de venir m'installer dans l'écosystème qu'ils essayaient de créer, ce que j'ai accepté dès le départ. Et dans le fond, juste pour vous donner une idée, lorsque je suis arrivé sur place, on était une équipe de deux. Lorsque j'ai vendu ma boîte en octobre 2016, on était une équipe de 8 et mon chiffre d'affaires avait connu une hausse vertigineuse.
Wow.
Donc, ma boîte comptable, également d'autres entreprises qui avaient commencé au départ, ont eu le même type de croissance. Donc, on s'est dit, à travailler de façon informelle, ça fonctionne. Donc, essayons de mettre en place une structure formelle pour aider d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs à vivre un peu qu'est-ce qu'on avait vécu. Donc, c'est là que juin 2016, de façon plus officielle, on a créé une entité officielle qui, dans le fond, on l'a construit en OBNL. Donc, le but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, mais c'est un organisme, dans le fond, le groupe 3737, pour vraiment venir aider des entrepreneurs à développer, on parle d'aider à croître leur entreprise. Donc, c'est de là que... Exactement. Donc, c'est là qu'on a décidé de créer le groupe 3737. Et je ne sais pas si vous posez la question, pourquoi le groupe 3737?
Oui, ça allait être la deuxième.
On est au 3737 Crémazie.
D'accord.
Donc voilà, donc on ne peut pas déménager.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ou alors dans une autre rue où vous êtes au numéro 3737.
Il faut toujours, toujours trouver un bâtiment qui a le numéro 3737. Alors on peut traduire, voilà. Si on veut traduire les mots HAP en français, on va dire le pont d'innovation, non? On peut le dire comme ça, on peut le traduire comme ça?
Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, oui. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, on parle souvent d'innovation, donc on parle de développer des entreprises en utilisant des concepts d'innovation. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pas nécessairement oublier les entreprises considérées comme un peu plus traditionnelles.
Oui.
Donc l'idée, c'est peut-être de voir ces entreprises un peu plus traditionnelles, comment qu'on peut incorporer un élément innovation, un élément technologique dans leurs activités existantes.
Oui.
C'est une chose, un exemple très simple, c'est, bon, on sait, là, présentement, on vit un contexte pandémique.
Oui.
Les entreprises de qu'on appelait de proximité, comme exemple, les salons de coiffure, par exemple. Donc, comment qu'on pourrait les aider à créer une forme de revenus en créant une offre qui est en ligne, dans le fond. Donc, ça, c'est insérer, si on veut, une composante technologique à leurs activités. Donc c'est ce qu'on cherche à faire aussi.
Qui a le droit de vous voir, qui n'a pas le droit de vous voir? Quels sont les critères pour vous venir frapper à votre porte, pour dire j'ai besoin d'aide?
On est inclusif.
Oui.
Dans le fond, à la base de nos activités, on est vraiment centré sur diversité et inclusion et communauté noire.
Oui.
Mais encore une fois, on est inclusif, donc c'est pas parce que quelqu'un est québécois de souche qu'il n'est pas le bienvenu dans notre écosystème. Mmh. Donc, notre idée, c'est de vraiment de pouvoir aider des gens qui sont, on parle de marginalisés, donc de pouvoir créer un accès à des gens qui peut-être n'auraient pas un accès ailleurs.
Oui.
Donc c'est ça là, en premier, mais en même temps, on veut aussi pouvoir aider toutes les couches, donc soit qu'on est inclusif. Donc on commence avec la diversité et l'inclusion, mais on ouvre nos portes à des gens de
tout le monde. Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on revient, ça vous permet de souffler un peu. Et puis on revient pour terminer la conversation avec nous.
Nobody to somebody, he may be the woman. Oh, yeah, guy, buddy, man. You can call me Mr. Somebody.
Come in.
Beau testimony, on s'est fait danser. Hein. Alors, Louis Edgar.
Oui.
J'espère que vous avez dansé en même temps que nous. Hein.
Oh oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, on va parler un peu maintenant de ces 221 millions que le gouvernement fédéral a mis à la disposition des entrepreneurs noirs au
oui.
Canada.
Oui.
Où est-ce oui. que, qu'est-ce que vous en savez, vous en savez de ça?
Dans le fond, ben, l'annonce officielle a été faite le 9 septembre dernier. Donc, l'idée. C'était de pouvoir aider de façon plus spécifique et directe les entrepreneurs issus des communautés noires.
Oui.
Pour faire un bref historique, lorsque le confinement a été déclaré, dans notre accompagnement entrepreneurial, donc en travaillant directement avec les entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'il y avait certains enjeux relativement aux éléments de financement. Donc c'est sûr que le gouvernement, je pense, a été, le gouvernement fédéral et provincial ont été très proactifs à l'effet de essayer de voir des solutions à court terme pour aider les entrepreneurs de façon générale dans le contexte pandémique. Malheureusement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les entrepreneurs issus des communautés noires, malheureusement, semblaient être moins couverts par les mesures pour différentes raisons. Des raisons qui peuvent être relatives à la nature de leur entreprise, des raisons culturelles. Donc, il y a eu un enjeu tout de suite qui a été identifié.
Oui.
Donc, le groupe Tentête, ce qu'on a voulu faire, donc, dans le cadre de notre accompagnement, on a voulu lever le drapeau rouge et sensibiliser, si on veut, les instances gouvernementales pour leur laisser savoir que les mesures qui avaient été mises à l'époque en place, malheureusement, ne couvraient pas la majorité de nos entrepreneurs. Donc, on a fait un sondage à l'interne, juste pour vous donner une idée.
Oui.
Sur les entrepreneurs sondés, issus des communautés noires, seulement 11,7% de ces entrepreneurs-là avaient accès ou allaient avoir accès aux mesures, aux différentes mesures là pour entreprises qui avaient été annoncées,
oui.
ce qui est un pourcentage qui est vraiment très bas.
Donc, très bas, oui.
Exactement. Donc, on a communiqué ces statistiques-là. Et, ben, comme encore une fois, le gouvernement fédéral a vraiment été très proactif. Donc, l'idée, c'est de voir comment rapidement on pouvait aider et justement supporter si on veut, ces entrepreneurs qui semblent tomber dans une, entre guillemets, une craque. Donc, de fil en aiguille, en travaillant avec les gouvernements, donc on a commencé par sensibiliser. Par la suite, l'idée, c'était de voir comment on pouvait proposer quelque chose qui pourrait aider à court terme. Donc, on a pu échanger, puis voir un peu là concrètement qu'est-ce qui pouvait être mis en place. Et ben, l'objectif, c'était vraiment de voir comment on pouvait engager le gouvernement. Donc, le gouvernement s'est engagé de fil en aiguille à investir 221 millions en partenariat avec les grandes banques canadiennes,
oui.
pour venir en aide et supporter les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, le rôle, si on veut, du groupe 3737 a été plus un rôle de sensibilisation et de partage de données, de terrain,
oui.
pour pouvoir aider à la mise en place.
La mise en place.
De cette initiative. c'est ça exactement.
OK, ben, parce que
pour... la mise en place, mais l'engagement.
L'engagement. Oui, parce que pour un entrepreneur noir qui nous écoute, qui a un salon de café ou bien je ne sais quoi, quel, n'importe quelle entreprise qui nous écoute actuellement, là, qui va se dire, mais qui va gérer, qui c'est d'intermédiaire, qui va gérer ces 221 millions? Comment je peux avoir ma petite part pour pouvoir sauver mon entreprise?
D'accord. Donc, dans le fond, tu sais, il y a le, encore une fois, la première étape, c'est l'engagement du gouvernement. Maintenant, il y a la... Il y a la mise en place, donc, de la formalisation, si on veut, de l'initiative.
Oui.
Et pour ça, dans le cadre de cette formalisation, l'idée, ça a été, c'est quelque chose de public. Donc, c'est de il va y avoir un appel de proposition, si on veut, juste, ouvert et transparent.
Oui.
Pour toutes les organisations qui sentent qu'ils peuvent agir à la distribution, la mise en place de d'une entité qui va pouvoir, si on veut, octroyer et donner, les faire acheminer, si on veut, les sommes aux entrepreneurs des communautés noires.
Oui, OK.
Donc là, on rentre dans une phase de plus de formalisation, mais il n'y a pas encore de critères encore établis.
Est-ce que pas de critères établis? Comment vous avez accueilli cette nouvelle?
Oh, ça a été pour moi, pour travailler avec les entrepreneurs, que ce soit dans mon rôle lorsque j'avais ma boîte comptable, que ce soit dans mon rôle actuel en tant que PDG du groupe 3737, donc je travaille avec les entrepreneurs directement, puis je vois directement c'est quoi les enjeux. Le fait d'avoir une possibilité de financement spécifique dans ce cas-là pour les entrepreneurs des communautés noires, on parle souvent d'enjeux par rapport à l'accès aux capitaux pour les entrepreneurs de cette couche des entrepreneurs des communautés noires. Donc le fait d'avoir une offre de financement spécifique fait en sorte qu'il y a de l'aide, il y a un accès au financement direct spécifique pour les entrepreneurs des communautés noires. Puis, je pense que ça va faire une très grande différence dans le contexte de, on parle souvent de manque d'accès aux capitaux pour ces communautés.
Oui, oui. D'accord. Bon, avant de partir, bon, moi, parce que le groupe 3737, j'aimerais bien savoir. Bon, on va se quitter. C'est fini. On est déjà à la fin de la conversation.
Ah ben, il nous reste encore une minute. On a le temps de lui poser.
En quelques secondes rapidement. Comment vous voyez l'avenir du groupe 3737?
Ah ben, c'est une super. Je pense que l'idée dans le contexte de pérennisation de l'organisme, je pense que là, on arrive à une phase de croissance.
Oui.
Je pense que avec le travail qui a été fait par que ce soit l'équipe, que ce soit nos fondateurs, également l'implication des bénévoles, des membres, je pense que là on est à une phase où ce que on a vraiment l'infrastructure pour vraiment supporter à plus grande échelle les entrepreneurs issus de la diversité des communautés noires. Donc ce que je vois pour le groupe 3737, c'est de continuer dans cette voie-là.
Oui.
Et peut-être qui sait, là nos activités sont présentement à Montréal, mais c'est de regarder aussi voir comment qu'on peut aider dans différentes villes à travers le Québec, puis qui sait, peut-être voir comment
merci
on peut aider
beaucoup. Merci beaucoup. Louis Edgar Jean-François, PDG.
Bonne continuation, en tout cas. Merci.
Voilà, merci. PDG du groupe 3737. Bonne continuation. Et plus
merci
bon ben.
Énormément.
À bientôt, on espère.
Au revoir.
À très bientôt. Merci.
Au revoir. Oui.
Running late on a Wednesday.
Nos yeux se sont croisés. Tout juste après la pluie.
Two hearts on a cold street. Looking back at the same time. I feel your warmth, did you feel mine?
Et toi et moi, qu'est-ce que t'en dis? Le cœur après la pluie.
I know this sounds crazy.
Cette histoire d'amour.
And I'm thinking maybe that you feel it too.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux rester? Et mon cœur a dit oui.
For you, I'm a travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you.
À nous les années à sévir. Dans les bras l'un de l'autre sans jamais douter.
With you, whenever I'm with you.
À nos doigts on a mis des bagues. Affronter quelques vagues.
Remember how you met me. Two hearts on a cold street. Three kids in a big house. Can't believe we're here now.
Et maintenant, qu'est-ce que t'en dis? Le cœur après la pluie. Avec toi, j'ai rêvé cette histoire d'amour.
Remember that day as I lay here with you.
Moi, j'étais seul dans la vie. Et tu es resté.
I still feel the same, yeah.
Pour toi, j'irai jusque dans les étoiles. Je garderai ton bonheur à l'abri du mal.
For you,
je donnerai tout.
With you, the years just fade away.
Dans les bras, l'un de l'autre, sans jamais douter.
With you, I'll set my point to save too.
Deux cœurs après la pluie. Deux cœurs après la pluie. Two hearts on a cold street. Two hearts, just you and me.
Toi et moi pour la vie.
For you, I'll travel the outer space.
Pour moi, les années n'ont rien changé.
For you, I'll travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you.
À nous, les années à s'éveiller. Dans les bras, l'un de l'autre, sans jamais douter.
With you, on sait mon point, c'est tout.
Quelle belle complicité, Tyler et Sarah Diamond, with you.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors, dans cette deuxième demi-heure, on va commencer d'abord une première partie avec Luc Boilly qui va nous faire une chronique mauvaise humeur. Et vous allez comprendre pourquoi après, quand vous l'aurez entendu, vous comprendrez le pourquoi de la chanson qu'on envoie en ce moment qui est Big Flo et Oli qui nous chante Insolent.
Fais monter les stats, eh. Qui fait les stats, eh. C'est what you what, eh. C'est un seul cas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui m'a encore clashé, frérot? Pas le temps de m'en occuper, je dois signer des papiers, frérot. Des apparts à compter, à la belle à monter. T'as appelé, j'ai raccroché, tu t'es trompé de numéro. Mes disques d'or, je les compte plus, y'en a plus de 16. C'est moi le plus manche, pourtant c'est moi qui la baise. J'ai vu que tu te mets à rapper, qu'est-ce que t'essaies de faire? La seule chose que je rate, c'est quand j'essaie de perdre. Tu dis que tu te fais de la thune, mais il vaudrait mieux que tu t'aises en une date de mes festivals. Je me paye 10 de tes showcases. Au fait, mon frère est humble, de nous deux, c'est le moins bête. Il aime pas trop quand je prends des photos dans le jet. Fais la boule noire, ok? Puis la cigale, ok? Puis l'Olympia, ok? Puis le Zénith, ok? Après le Bercy, ok? Puis un stade, ok? Puis la Défense Arena, et là tu pourras me parler. Recharge, tire une balle, c'est raté à côté. Personne se tatoue tes paroles, c'est des onomatopées. Parce que j'ai taffé d'arrache pied grave, ne cherchez pas la merde, bande d'apprenti. Ça serait con de te faire niquer ta mère par un rappeur gentil, non? Bientôt il est temps de faire nos adieux. Pendant qu'on est en pause, essayez de faire mieux. Au fait, pour tous les rageux, j'ai réservé les stades pour 2022. Bientôt je perce au Brésil. Je vais en vacances dans les mêmes endroits que Jay-Z. Du sel et du citron, couplé devient acide. J'ai fait un code de triche où le rap c'est trop facile. Si tu veux que je perde tout ce que j'ai, faut que tu braques la BNP. J'ai beaucoup de bénéfices comme beaucoup de BNC. On a percé, c'est pas grave, faudra t'y faire. Rache pas mes impôts, paie la cantine de ton petit frère.
On fait monter les stats, qui fait les stats? C'est what, c'est un seul en casse. On fait monter les stats, qui fait les stats? C'est what, c'est un seul en quatre, un seul en quatre, quatre.
Big Flo m'a dit, sois insolent, lâche-toi la prod, fais-la souffrir. Les rageux fermeront leur gueule et les fans pourront enfin l'ouvrir. Parano, j'ai l'impression que c'est con, parle de moi dans chaque son. Le rap c'est comme une disserte de philo, vaut mieux citer les noms. À ta place, j'irai plus la rage que ça. Moi j'ai rempli les stades de ma ville, tu remplis des stades sur FIFA. Notre public c'est des enfants, quand j'écoute tous ces conos. Bande de tricheurs de stream, votre public c'est des robots. J'ai des dossiers sur vos équipes et j'ai la haine. Je pourrais faire un titre qui mettrait fin à vos carrières et à la mienne. J'ai des étoiles dans les yeux, fais un vœu si tu me fixes. Je ferai jamais les mêmes erreurs que ces vieux forceurs d'artistes. Mets des survêtements, faire du jeunisme par peur de perdre son public. Faire des features, j'ai des hydrates et des clics, change d'équipe, drague les petites. Me regarde pas si je te croise au catering. Tu pourrais prendre une gifle Ou pire, une pique dans une de mes rimes. Tu me dois le respect, j'ai commencé au même âge que Mozart. Donc lève-toi, serre la main et ramène des œufs mimosa. Je viens briser l'hypocrisie, crache mon mal sur le papier. Ils font des posts pleins de morale avec de la corde sur le clavier. Ils font les stars, ma parole. Quand l'album sort, ils font des semaines à moins de 2000 comme le salaire de ma daronne. Ils diront que c'était mieux avant, comme ton papa quand il parle de maman. Comme quand je rappais devant être mal sans savoir que je finirais 10 de diamants. Je vais me remettre à kicker, tout le type devant le micro oublie comment faire. Jeune rappeur, je donne des stages de flow, laisse ton mail en commentaire. Non mais c'est quoi le problème? Qu'on vend plus de disques, qu'on vend plus des stades, mais dis-moi c'est quoi le problème? Qu'on ait plus de fric, qu'on ait plus de fans. 24 ans, ils me comparent à des rappeurs qui n'ont plus 30. Ils ont fait 10 albums, en 3 j'ai fait 4 fois le tour de la France. Bien sûr on a changé, le succès adoucit la voix. Avant je rageais sur les victoires de la musique, puis j'en ai gagné 3. Oli Benjamin Button, j'ai le parcours inversé. J'arrêterai ma carrière à l'âge où ils ont percé. Oli,
c'est pas moi, c'est Flo, il m'a dit d'être insolent. Ah, fais chier, j'aime pas ça en plus. Insolent.
Bonjour Luc Boily.
Ah oui, c'est de moi qu'on parle.
Eh ben, c'est-à-dire que cette chanson faisait un petit peu référence à la chronique que tu vas nous faire. Fulgence ne te connaît pas encore, donc il va l'entendre pour la première fois. Donc avant qu'il tombe de sa chaise, je voulais prévenir.
Bonjour
c'est
Luc Boily.
Allô Fulgence.
Alors Luc est un artiste, il écrit des bandes dessinées, il est prof à l'école de l'humour. Enfin, il a plein de cordes à son arc. Et il est aussi de mauvaise humeur quand je lui pose la question suivante. Comment vas-tu, Luc?
Ah, tu veux savoir si je vais bien?
Oui.
Tu me posais la question en 2019 et à chaque fois, je répondais, ça va mal.
Alors, je ne te parle pas de 2020.
Qu'est-ce que vous pensez que je vais répondre en 2020, 6 minutes après que Montréal soit passé au rouge? Hey, on veut pas, on peut pas se permettre un deuxième confinement. Hein?
Non.
Bon, d'un point de vue personnel, ça va. Je suis pas mal en mode distanciation sociale depuis novembre 2016. D'un point de vue familial, c'est plus compliqué. Comme ce matin à la radio, quand ils ont parlé de l'annonce de la zone rouge, mes deux garçons m'ont regardé, terrifié, en disant « Papa, qu'est-ce qui va arriver? Promets-nous que tu vas pas refaire du pain aux bananes. » Tu sais, c'est pour eux, c'est terrible. Puis, au niveau sociétal, là, c'est plus grave.
Oui.
Il y a un pourcentage grandissant de gens qui capotent parce qu'on leur demande de porter un couvre-visage le temps de faire leur épicerie. C'est, bon, ceci dit, le gouvernement ne mérite pas un 100% dans la gestion de la crise, mais c'est pas une raison de partir en peur et d'imaginer, et le verbe ici est particulièrement bien choisi, imaginer, des complots pédosatanistes dictés par le Big Pharma, Hillary Clinton et Bill Gates, avec des gouvernements du monde agissant de façon concertée face à cette crise. Ben oui. Hein? Et attendez bien ici l'ironie dans ma voix. Ben oui. Hein? 187 gouvernements à travers le monde travaillant de façon coordonnée. Hey. On est en 2020. La route 138 ne se rend toujours pas à Blanc-Sablon. Ça a pris 40 ans pour qu'elle se rende de Sept-Îles à Natashquan. On parle d'une route secondaire qui n'a pas à franchir l'Himalaya. Là. Hein, la base Côte-Nord, c'est plate comme les samedis soirs. Il n'y a presque pas d'arbres, juste quelques rivières à traverser et des milieux humides à contourner. Le tout coordonné par un gouvernement. Fait que pour ce qui est des complots mondiaux impliquant tous les gouvernants du monde, je suis sceptique au cube. Alors, pour reprendre votre question du début, Fulgence et Arlette, ouais, c'était un long préambule, là, mais est-ce que ça va bien? Alors, je vous répondrai en un mot et 7 synonymes. Génial! Super! Excellent! Youpi! Extra! Magnifique! Parfait! Fantasmagorique! Et oui, vous aurez compris, je carbure au malheur et présentement, mon pipeline ne fournit pas. Tu sais, moi, un gars qui mange une banane démontrant ici une saine alimentation, c'est bien, mais c'est plate. Alors qu'un gars qui mange une banane, mais qui se pète la gueule en glissant sur la pelure qu'il a négligemment laissé choir au sol sans... au sol, trop occupé qu'il était à me dire « Tu vois, Boily, j'ai une meilleure alimentation que toi et donc une meilleure santé. » Ça, c'est hilarant. Alors, en ce 28 septembre 2020, mon réservoir de mauvaises nouvelles déborde. Vous m'avez demandé de faire 7 minutes, je pourrais facilement faire 7 heures. Là, vous allez dire «
Non, laisse tomber.
Laisse tomber, on n'a pas 7 heures d'émission.
Je le sais, j'exagère, mais c'est normal, je suis un humoriste, c'est mon métier. En revanche, il y a trop de monde qui exagère exagérément, et ça, ce n'est pas leur métier, puis ça, c'est dangereux. Oui. Ce serait trop facile de donner Trump en exemple. Alors, je vais plutôt donner l'exemple d'un homme ordinaire. Et quand je dis ordinaire, c'est plus pour le désigner que pour le qualifier, car si je voulais le qualifier, j'emploierais plutôt le vocable inarticable. La nouvelle est tombée vendredi dernier, OK, et le titre allait ainsi. Un journaliste victime d'une tentative d'arrestation citoyenne. Bon, un tata qui a décidé de prendre la justice en main, hein, alors qu'il aurait eu mieux fait de prendre le code civil dans ses mains. Et comme moi, vous vous dites sûrement, ça a crise américaine, hein, sont rendus capotés.
Ah, c'est un Américain?
Ben non. Non, même pas. Cela s'est produit à Ottawa. Notre justicier taré se considère victime d'une injustice car Justin Trudeau et Judy Wilson-Raybould auraient, je dis bien auraient, fait entrave à la justice dans le traitement de son dossier à lui. Alors, notre tata en puissance a décidé de se faire justice lui-même en mettant sous arrêt, je mets ça en guillemets, le député bloquiste Mario Beaulieu. Bon, c'est quoi le lien entre Mario Beaulieu, Justin Trudeau et Judy Wilson-Raybould? C'est déjà, tu vois que le gars n'est pas brillant. Mais le type, au lieu d'arrêter ou de tenter d'arrêter Mario Beaulieu, il a tenté d'appréhender le journaliste de RDI, Daniel Thibault.
Oh, le pauvre.
Ben oui. Ah ben oui. Hein, Mario Beaulieu, Daniel Thibault, les deux finalistes au dernier concours de sosie de Eva Braun. Alors, tu vois que le gars, hein, il a exagéré dans son exagération. Hein?
Okay.
Et je peux me permettre d'affirmer que ça ne peut que dégénérer. C'est pas bon, cette situation-là. Je vous donne un dernier exemple.
Oui.
Selon l'Université de Chicago, entre le 27 mai et le 9 juillet, il y a eu aux États-Unis 66 incidents où des gens ont foncé dans des manifestants avec leur voiture. Ça, en fait, quand on parle d'exagération qui peuvent dégénérer, là, voilà. Et puis ça, c'était pas des incidents du genre « Attention, mes freins ne répondent plus ». Non, non, non. C'était du genre « J'haïs ces manifestants Black Lives Matter. Ils m'empêchent d'exercer mon droit constitutionnel d'avoir accès au bar à pain à moitié prix de chez Red Lobster. » Et là, on rentre dans les manifestants. Fulgence, Arlette, vous conviendrez que j'exagère pas en disant qu'ils exagèrent.
Écoute, cette fois-là, vraiment, Luc, c'était bon.
Au bout de la main.
Non, faut pas. J'ai pas dit ça. Arlette n'a pas dit ça non plus.
J'exagère. Attends, fini.
Heureusement, il y a un politicien qui est intervenu.
Oui.
Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui a proposé tout récemment une loi qui protégerait, écoutez bien ça, qui protégerait les chauffeurs qui blesseraient ou tueraient des gens dû au fait qu'ils fuyaient en véhicule des foules cherchant à se protéger. Alors là, ce n'est pas les manifestants qui sont protégés, c'est les gens qui vont fuir des scènes de crimes de ce genre-là.
Ben écoute, alors on va finir là-dessus.
Quand on parle d'exagération, Ron DeSantis, c'est le champion de toute catégorie. Et ce gars-là, c'est impossible, il a enseigné c'est un avocat et il était enseignant à Harvard. C'est capoté.
Tu nous laisses là-dessus? On s'arrête là-dessus et puis on s'en reparlera, mais c'était top. Je suis en train de digérer là. Merci beaucoup, Luc.
Merci beaucoup, Luc.
À bientôt. Bye.
Devant l'inconnu. ce n'est qu'une façon parmi d'autres de vivre. Oui, ce n'est qu'une façon.
Alors avec Luc, on vient de parler de la bêtise humaine et maintenant j'aimerais vous parler de l'intelligence animale. J'ai vu une très belle histoire qui s'est passée il y a déjà quelques années et qui est passée sur Facebook et j'avais envie de vous la raconter. En tout cas, j'avais envie de finir cette émission avec sa Fulgence. Je vais parler d'un monsieur qui s'appelait Enzo Maiorca, né à Syracuse, qui était un plongeur italien qui a détenu quand même 13 records du monde dans la catégorie No Limit entre 1960 et 1974. Alors ça, c'est pour planter le décor. Donc, ce plongeur italien était dans la mer de Syracuse et puis il était sur son bateau avec sa fille. Et puis, ils étaient prêts à plonger. Puis d'un coup, sa fille, elle a senti comme quelque chose qui la tapait dans le dos, venait... Et puis quand elle s'est retournée, elle a vu un dauphin. Alors ils ont cru d'abord, tu sais, comme quand on voit un dauphin qu'il avait envie de s'amuser et puis qui venait près du bateau pour... Mais en fait, non. Ils ont réalisé qu'il ne désirait pas jouer. Il venait plutôt dans l'intention de les emmener ailleurs. Alors, comme l'animal a plongé, eh bien mon Dieu, Enzo l'a suivi. Et puis environ 12 mètres de profondeur, il a trouvé... coincé dans un filet abandonné, un autre dauphin. Alors il est vite remonté à la surface, il a fait signe à sa fille de venir, et il a pris les couteaux de plongée qu'il avait sur lui, et puis il est redescendu pour libérer le dauphin. Et puis au bout d'un petit moment quand même, le dauphin était complètement à bout de force, et il a réussi à sortir et a lancé ce qu'il appelle, qu'il a décrit Enzo comme un cri presque humain. Et il se trouve que ce dauphin était une femelle qui était enceinte et qui allait mettre bas dans peu de temps. Donc il réussit à la libérer. Et puis, le dauphin, la dauphine, je ne sais pas comment on dit pour la femme du dauphin, était un peu étourdie. Donc ils étaient là, le père et la fille, en train de la regarder. Et puis d'un coup... le mâle est venu et il s'est comme soulevé et il a touché le visage d'Enzo comme pour l'embrasser, comme pour dire merci, qui est absolument extraordinaire.
C'est des remerciements, oui.
Et alors Enzo Maiorca avait dit à l'époque, jusqu'à ce que l'homme apprenne à respecter et à dialoguer avec le monde animal, il ne pourra jamais connaître son véritable rôle sur cette terre. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique quand on entend une histoire pareille, c'est fou. Mais alors ce que j'ai lu, par contre, c'est que l'animal ne peut pas rester sous l'eau plus de, je crois que c'est une quinzaine de minutes.
Même le dauphin ?
Le dauphin, oui, particulièrement. Il peut rester en apnée sous l'eau juste jusqu'à 10 minutes et puis après il se noie. Donc ça veut dire qu'il est sans cesse en train de remonter. Donc ce qu'on voit chez un dauphin comme ce mouvement pour toujours remonter à la surface, sauter, revenir et qui nous donne l'impression qu'il a envie de jouer avec nous, c'est peut-être pour venir prendre sa respiration et replonger après.
Il n'est pas comme les poissons. Les poissons...
Je ne sais pas, c'est ce qui a été écrit après moi. Je te dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit comment ça se fait qu'un dauphin.
Mais
en tout cas,
l'histoire
est belle, l'intelligence animale nous le prouve tout le temps. Les animaux, ça... Quelqu'un me parlait il y a peu de temps de certains oiseaux qui prennent des fruits, qui les grignotent et puis qui les laissent tomber. Alors on se dit, tiens... Après, il prend un fruit, il les abîme et puis il les jette. Mais non, l'intelligence animale est autre. Ce fruit sert à nourrir les petites bêtes qui, elles, ne peuvent pas grimper chercher le fruit.
C'est clair.
Et, l'entraide qu'on devrait avoir les uns les autres tous les jours se voit chez les animaux. Mais regardons-les. Regardons-les faire. Apprenons à travers eux les gestes qu'on devrait savoir poser naturellement. Et d'ailleurs, à travers l'enfermement, en tout cas, qu'on a vécu à cause de la Covid, j'ai vu ça passer sur Science et Avenir. Il se trouve qu'ils ont fait un test et les personnes qui avaient des animaux ont plus facilement supporté d'avoir à rester chez eux que ceux qui n'en avaient pas. Parce que faire attention à l'autre, porter le masque, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous manque le plus dont on se rend compte aujourd'hui quand on en est privé? Ben, d'être embrassé, de dire bonjour, de se toucher la main, de se tenir dans les bras, de parler à quelqu'un plus près qu'à 2 mètres ou dans son jardin. C'est tout ça aussi qui manque et qui fait que ça fait du bien.
Ça fait partie de la vie de l'humain.
Donc,
c'est le social même au sens propre du terme.
Oui, voilà, mais les animaux sont beaux comme ça. Et puis j'avais envie de vous lire cette histoire parce que je trouvais ça magnifique.
Ça me fait penser à l'écureuil que je vois à 3 reprises traverser au coin de ce Christophe Sherbrooke ici quand je viens du jardin là. Et puis je travaille tout le temps avec les deux joues bien pleines et puis un grain aussi où il fait sa réserve de
mais oui pour
d'hiver.
L'hiver
ouais puis c'est, l'hiver. J'ai l'impression il va falloir que je lui prenne en photo parce que j'ai l'impression que c'est le même écureuil qui à la même heure qui passe qui est en train de préparer sa réserve d'hiver.
Les animaux sont vraiment très intelligents, les oiseaux quand on leur prépare des bacs pour qu'ils viennent quand ils ont trop chaud, on leur dit ça y est, l'eau est propre, tu peux venir, ils viennent.
C'est ça. Et puis le même trajet, le même parcours, le même chemin, je m'arrête, je regarde, mais c'est pas celui que j'ai vu hier, est-ce que c'est pas le même que j'ai vu avant-hier? Puis il remonte par les escaliers là rapidement et puis je le vois monter, je dis
on prend ça pour un côté magique, mais en fait j'ai envie de vous donner, enfin de nous donner à tous ce message là. Mon Dieu, regardons les animaux, quoi. Tous les animaux, ils ont déjà l'intelligence, de l'aide, de l'entraide, de savoir-faire, de pas réfléchir sur « c'est à moi, c'est moi qui le veux et moi, tu n'en auras pas ». Non, ils n'ont pas ça, ça c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes ça, tu as l'impression de plus jouer dans une cour de récréation et tu te dis « là, c'est quand même... » important.
Oui, mais les
de
humains.
De voir la vie, comment elle se passe.
Il y a de belles personnes aussi sur cette terre aussi. Qui regardent les autres,
dis pas le contraire,
la main, voilà, qui relèvent les autres aussi.
Eux, c'est inné chez eux. Ils ont cet instinct. Et cet instinct qu'on ferait pas mal de regarder. Tiens, puisqu'on a du temps, prenons le temps de les regarder vivre. Voilà, c'était mon.
Non, je
mon
comprends.
Petit
je
ne
vais
de...
pas dire autre chose pour gâcher ta belle histoire. J'ajoute plus rien là-dessus pour gâcher ta belle histoire.
On va partir en musique avec Gypsy Cumbia Orchestra.
Miras lo que tengo y te digo yo no vengo nada. Miras lo que tengo y te digo yo no vengo. Miras lo que tengo y te digo yo. Miras lo que tengo y te digo. Miras lo que tengo yo. Miras lo que te. Mírate a ti. Miras lo que tengo y te digo yo no vendo nada. Yo solo voy por el camino. Yo solo caminar y navegar. Tengo el sentimiento de todo el que pasó. Paso por el camino cantando una canción. Mi libertad. Siente lo que traigo con toda humanidad y vente a compartir conmigo. Te invito a caminar,
caminar,
a cantar, a reír, a gozar, a velar sin destruir. Proteger a la Pachamama o nos vamos a arruinar. Esta tierra está dolida, pues la destruimos por dinero. Nos falta la razón latiendo fuerte al ritmo del tambor. O la madre que está herida va a lanzar su aguacero.
Voilà, on arrive au bout de cette émission, cette première émission de la semaine. Et
oui.
Puis, moi, j'ai envie d'annoncer quand même, Fulgence, que demain, ben, on aura quelqu'un pour nous parler du prix des libraires du Québec et nous dévoiler la liste préliminaire des livres jeunesse. Voilà, on va discuter avec une libraire.
Livre jeunesse.
Oui, livre jeunesse. On apprend plein de choses par rapport au livre jeunesse.
Oui.
Des fois.
Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, j'ai lu beaucoup.
On le raconte aux enfants, puis en même temps, on apprend quelque chose, puis c'est une leçon donnée aux adultes.
Ouais. Allez, on dit bonjour, on dit merci à Louis-Edgar Jean-François.
Bien sûr.
Le PDG du groupe 37-37, comme tu le sais.
Et
maintenant.
Bonne continuation.
C'est 37-37 Crémazie Est.
Et bonne continuation
dans ce qu'ils font,
bravo. Ce qu'ils font.
Merci à
Luc Boily.
À ton ami Luc.
Boily. Merci Maurice Bolduc.
Maurice.
Merci à toi Fulgence.
Merci à toi aussi et puis bon début de semaine à nos auditeurs.
Bien sûr.
On aura avec nous jusqu'à la fin de la
Continuez
semaine.
Continuez à nous suivre demain de 5 à 6 comme d'habitude.
Voilà.
À bientôt.
On vous dit ciao.
Bonne soirée.